Nous accueillons Guy Boucher. Bien le bonsoir, Guy.
Bonsoir.
Avant d'entrer dans les gros sujets, là, je m'amuse avec les gens. Beaucoup, beaucoup de messages à la messagerie texte, puis je t'en parlais un petit peu plus tôt aujourd'hui. Est-ce que tu as vu un meilleur duo, puis sûrement, en fait, je dis pas que c'est le meilleur de tous les temps, mais c'est du gros calibre, Dreisaitl, McDavid. Là. Quand tu penses à deux gars autour de qui tu peux bâtir une équipe ou qui charrient une équipe, Guy, dans la Ligue actuellement, je ne sais pas si tu envoies des meilleurs qu'eux, puis si on y va all-time de tous les temps, qui te vient en tête quand tu penses au meilleur duo de l'histoire?
Bien, premièrement, faudrait que tu me dises qu'est-ce que tu veux, comment tu définis duo? Est-ce que c'est des gens qui jouent ensemble sur une base constante ou c'est juste deux individus dans la même équipe?
Bien, écoute, c'est un peu des deux, mais j'aimerais, je vais dans les paramètres, je vais te dire deux gars qui se croisent au moins sur le jeu de puissance. Au moins sur le jeu de puissance, puis qui deviennent, si tu veux, tes deux, les deux poteaux qui tiennent le chapiteau.
Ben, parce que c'est sûr que tu as Crosby Malkin ensemble qui ont joué rarement ensemble en 5 contre 5, mais
oui.
Qui jouaient ensemble en avantage numérique, ça c'est semblable, évidemment.
Oui.
Mais moi, quand tu me dis du haut, ben, évidemment, il y a Mario Lemieux. Mais moi, le mot du haut, c'est deux individus qui jouent ensemble.
D'accord.
Sur l'avantage numérique à 5 contre 5. Puis moi, je vois pas meilleur duo dans l'histoire de la Ligue que Gretzky Curry. C'est Gretzky qui est le meilleur marqueur de l'histoire de la Ligue, avec Curry, qui les deux avaient une chimie exceptionnelle, puis c'est une chimie qui a perduré tout le temps qu'ils étaient ensemble. Alors moi, ça serait mon choix, puis c'était mon équipe, eux puis les Nordiques dans le temps.
Alors, t'aimais les équipes offensives, donc dans la même catégorie, si je suis tes paramètres, c'est-à-dire des compagnons de trio réguliers, ce qui est intéressant également, parce que ça rétrécit un petit peu le comment dirais-je, ça précise le tir un peu. Donc, Peter Stastny et Anton, tel que me l'ont suggéré plusieurs personnes à 9-8-1-5 à messagerie texte. Ça serait d'un pas pire, ça aussi. Je n'ai même pas dans la même catégorie que Corey Gretzky, mais c'était du bon calibre, toi qui étais un ancien partisan des Nordiques.
Bien, absolument. Puis c'est quand même intéressant. Là. Je m'étais posé la question des années 90. Je pense que c'est 90. En tout cas, je pense que c'est 90. Et après, Wayne Gretzky, qui est le joueur qui avait le plus de points dans la Ligue nationale? Et la réponse était Peter Stastny.
Exactement.
Et bien évidemment, oui, les deux frères ensemble étaient génial, mais c'est sûr que si Gretzky est en avance individuellement, je pense que Curry est en avance aussi sur Anton. Alors c'est pour ça que oui, je préfère. Avec la question que tu me poses là, je demeure avec Gretzky Curry.
Dans ce que tu as vu de tes années actives, Ligue nationale, tu es toujours actif, mais je veux dire de se continuer d'observer. Les Sedin, tes places-tu haut, des compagnons de trio réguliers, c'était-tu du gros, gros calibre? Comment tes places?
Ben, je pense que oui, parce que c'est certain que la synergie était exceptionnelle. Évidemment, deux frères qui ont joué ensemble toute leur vie. Par contre, je pense que quand on regarde le succès d'un duo, il faut quand même regarder aussi le succès collectif que ces individus ont engendré. Puis,
oui.
Ben, mais ce n'est pas des individus qui ont gagné la Coupe Stanley. Alors, si on parle de Gretzky et Curry, c'est deux individus qui ont gagné la Coupe Stanley à plusieurs reprises. Alors, déjà là, je pense que c'est des gens qui sont un mille en avance sur les Sedin. Mais oui, c'est sûr que c'était une combinaison infernale, si tu veux, dans l'état moderne. Et spécial parce qu'évidemment, une synergie comme ça, je pense que ça ne peut pas exister sauf entre deux frères. Mais même si c'est des grands joueurs, ce n'était pas des joueurs aussi exceptionnels que c'est les Gretzky, les Mario Lemieux et David et ses joueurs-là.
T'as dirigé contre Ovechkin, Backstrom?
Ah, écoute, ça, c'est sûr que c'est dans les meilleurs de l'histoire. Ovechkin va peut-être finir le meilleur marqueur de l'histoire s'il continue sur cette lancée-là. Et puis Backstrom, c'est quand même, je veux pas dire qu'il était sous les radars, parce qu'évidemment, c'est quand même une vedette de la Ligue nationale, mais je pense que quand tu es dans les coulisses de la Ligue nationale, de la sphère de la Ligue nationale, ben, tu es appelé à l'étudier de fond en comble parce que tu joues contre lui régulièrement. Et puis, je te dirais que c'est peut-être par rapport à la qualité d'individu, la qualité de joueur dans les deux sens de la patinoire, tout ce qu'il peut faire, c'est peut-être un des joueurs les plus sous-estimés de la Ligue nationale. Parce qu'évidemment, Ovechkin prend tellement de spotlight que on a tendance à reléguer Backstrom peut-être à un second rôle, alors qu'il est un joueur exceptionnel, qui a vraiment été au cœur des succès de Washington pendant plusieurs années. Puis moi, je l'admire beaucoup parce qu'il a d'une intelligence vraiment hors du commun.
Oui, j'apprécie ton commentaire parce que j'apprécie le jeu de Backstrom. Puis c'est pas toujours. Puis c'est bon parce que c'est un bon duo. Il y en a un qui attire toute la lumière puis qui est capable de vivre avec, même qui carbure peut-être à ça. Puis Backstrom le complète à merveille. J'ai envie d'étirer parce que là, les gens interagissent avec nous. Tu sais comment ça marche, ta messagerie texte, ça s'emballe. Oui. Puis là, les gens m'amènent des duos de défenseurs aussi. Tu as dirigé quand même une couple de gars de gros calibre. Je pense juste à Eric Carlson. Fait que dans le cas de Carlson, je sais pas si on peut parler du duo. N'importe qui tu mettais avec, c'est lui qui charriait. Chariel duo, mais tu sais, des gars comme Niedermeyer, il y en a qui me parlent de Lidstrom, Cronwall, même si on remonte plus loin, Serge Chavard, Larry Robinson, ben, on avait le Big Three aussi, fait que c'est rare qu'on l'a amené dans la notion de duo, mais est-ce qu'il y a un duo de défenseurs qui te vient en tête comme quelque chose qui était dominant?
Ben, c'est drôle hein, que tu dises ça parce que à penser vite, j'ai beaucoup plus des défenseurs individuellement qui m'ont marqué, mais des duos. Je pense que c'est difficile de mm-hmm. qu'on parle à Raymond, on passe de Raymond Bourque, Lidstrom, tous ces gars-là. J'ai eu la chance de coacher pendant Lidstrom. Ça, c'est une constance phénoménale. Raymond Bourque, la même chose. T'sais, tu parles d'Eric Carlson en termes de talent. Je te dirais que c'était même plus talentueux que Crosby que j'avais déjà eu. C'est juste le talent pur. Là. On ne parle pas du package deal, de tout le reste, mais le talent pur.
Là, tu parles de Carlson, Guy, là?
Oui, Carlson, oui, écoute ça. C'est quand Carlson est à son meilleur, là, je pense pas que j'ai vu meilleur. Mais évidemment, Carlson n'était pas toujours à son meilleur. Tandis que Crosby a quand même atteint une constance. Puis c'est quelqu'un qui a réussi à faire gagner son organisation. Puis c'est quelqu'un qui rehausse le standard de tout le monde autour. Donc, je pense que c'est presque pas comparable.
Il est inspirant.
Oh mon Dieu, c'est quand Crosby est là, même à 16 ans, là, t'as pas le choix d'être excellent autour, de donner tout ce que t'as parce que tu vas le savoir, puis tu le regardes d'aller. Tu sais, c'est dans les mêmes lignées que les Michael Jordan, puis les grands athlètes qui ont des intangibles tellement puissants que ils te tirent dans leur direction. Ils ne font pas juste t'inspirer, ils ne font pas juste te pousser à performer ils ne font pas juste te supporter, ils vont vraiment te tirer. C'est-à-dire qu'ils prennent le lot de la charge et ils t'amènent avec eux, puis t'es aspiré par l'attitude, le télétravail, la discipline. Du coup, c'est des individus tellement puissants. Et c'est pour ça que ces individus-là vont gagner à plusieurs reprises. J'invite les gens, je ne sais pas si les gens ont écouté le reportage, je pense que c'était à Netflix, là, sur les Bulls des années 90.
The Last Dance.
The Last Dance. Écoute, c'est le meilleur reportage de sport que moi j'ai jamais vu. La raison est simple, c'est parce que c'est la première fois et probablement la seule fois que je vois de la télévision réalité où on a, oui, c'est sûr qu'on a édité ça, mais où on laisse énormément de vraies séquences, de vrais moments, de vraies réactions dans le feu de l'action, dans les coulisses. Habituellement, puis ce qu'on voit aujourd'hui, même dans l'hockey, ce qu'on a fait avec Toronto là, récemment, Prime et tout ça, c'est intéressant. Mais par expérience, je vois que c'est édité pour évidemment pour écorcher personne, de rendre ça un petit peu dramatique à certains moments, mais vraiment de protéger. Tandis que la série sur les Bulls, elle est différente parce que étant donné qu'on est rendu loin dans le temps, il y a un écart de temps. On a osé révéler des choses qu'on n'aurait jamais révélées dans le temps parce que, évidemment, ça aurait été trop chaud comme sujet à ce moment-là pour aborder ça. Alors, avec le recul, puis même là, évidemment, il y a eu des réactions, mais le recul était assez grand puis assez long pour qu'on puisse quand même juste bénéficier de tout ce que c'était, de vrai réel regard sur ce que c'est le sport professionnel et ce que les athlètes de premier niveau ont à vivre.
Là, c'est un petit bijou.
Sans vraiment amener amener le négatif là, qu'on voit souvent parce qu'on essaie de s'attaquer justement à ce qu'on voit. Là. Alors moi, j'ai adoré. Écoute, c'est tellement puissant. Puis si on regarde Michael Jordan, on comprend que c'est les alphas mâles des alphas mâles. C'est impressionnant.
Oui, tu as raison. Puis d'ailleurs, ça, on pourrait facilement développer. Mais là, je sens qu'on partirait d'une méchante discussion. Mais tu sais, c'est pas tout le temps des plaisants qui amènent une équipe vers le haut. Hein? Puis ça a peut-être évolué dans la façon d'exprimer son caractère. Mais tu sais, si on reste pas longtemps, juste une petite couche de plus là-dessus, et t'en as peut-être coaché. Tu sais, c'est, comment dirais-je, ça prend pas juste des bons garçons pour faire une équipe. Puis je dis pas que c'était un mauvais garçon, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, il y en a qui sont pas évidents à vivre avec, là.
Non, ben je pense que la clé dans tout ça, c'est les exigences pour des standards qui sont une cible mobile, si tu veux. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont jamais satisfaits. Et ça, c'est de tous les grands athlètes que j'ai eus. Il y a eu Martin Saint-Louis, c'était pareil, Crosby, tout ça. Edmund, c'était quelqu'un comme ça aussi. Carlson. C'est, j'ai coaché Tavares, j'ai été chanceux à avoir fait 9 fois équipe Canada. Évidemment, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'athlètes de premier niveau. Et ce qui est commun à tous ces individus-là, c'est qu'ils ne sont jamais, jamais, jamais satisfaits. Ils n'en ont jamais fait assez. Ils ne s'assoient jamais sur leur laurier. C'est question après question. Ils veulent être défiés, puis challengés, poussés. Ils veulent des nouvelles tendances. Ils veulent tout ce qui est nouveau pour tout. On dit en anglais, trouver un « edge », c'est-à-dire trouver un avantage, si minime qu'il soit. C'est une constante quête de l'excellence. Et ça, c'est commun à tous ces grands, grands athlètes-là. Tu sais, je me rappelle, on était à Ottawa, puis on avait finalement passé nos locaux là, à l'équipe Canada là, durant pour le championnat du monde.
En 2016?
Pas championnat du monde, excuse-moi. Pas championnat du monde, oui, on a le World Cup.
La Coupe du monde à Toronto, oui. Puis Ottawa, ça va être ça d'entraînement, c'est ça, oui.
C'est ça, et à tous les matins, parce que j'étais là, puis j'étais quand même témoin de ce qui se passait, et dans les témoins, à tous les matins. C'était qui les 3 premiers arrivés à l'aréna. Tu sais, les joueurs devaient arriver entre 8h30 puis 9h, puis des fois, mettons 8h, 8h30, mais tous les matins, entre 6h30 et 7h, les 3 mêmes individus. Crosby, Taves, Tavares.
Et ça, c'est
des signes d'individus qui sont dédiés bien au-delà des exigences, bien au-delà de l'excellence habituelle. C'est des individus qui comprennent pas juste l'impact sur ce que eux vont faire, mais l'impact sur tout l'environnement. Et quand tu as des gens comme ça qui étirent le standard continuellement, ben tu peux pas stagner. Et c'est pour ça que des équipes comme Pittsburgh ont gagné à plusieurs reprises. C'est pour ça que Chicago a gagné à plusieurs reprises. Alors, c'est pas des hasards, c'est pas des gens qui sont nés comme ça. C'est des gens qui ont développé ces attitudes-là avec le temps. Et quand on parle d'experts, on parle que ça prend à peu près 10 000 heures pour que quelqu'un devienne un expert. Et évidemment, tous ces individus-là ont fait leurs 10 000 heures très, très, très tôt. C'est comme Beethoven. Ils ont dit que c'était un génie. Mais oui, mais à l'âge de 2 ans, il commençait à jouer du piano avec son père qui était professeur. Fait que c'est sûr qu'à l'âge de 12 ans, il écrit sa première symphonie. Son 10 000 heures, il l'a fait extrêmement tôt. Et un gars comme Crosby, c'est la même chose.
Tiger Woods,
exactement la même chose. C'est que c'est des individus, on va dire, ils sont nés comme ça, je m'excuse, c'est des individus que très tôt ont mis les heures. Je me rappelle d'avoir des conversations avec Sidney Crosby. Lui, il n'y avait pas d'été. Ses étés, c'est de s'entraîner 2 fois par jour. Puis dans les nouvelles tendances, aujourd'hui, on parle de pliométrie et tout ça, mais dans ce temps-là, personne ne parlait de ça, mais c'est parce que lui-même, son père me disait, c'est pas moi. C'est lui qui était toujours en quête par recherche de ça. Les gens disent, ouais, mais ça n'a pas de bon sens, c'est pas une vie. Mais oui, lui, c'était sa passion. Puis durant la saison, alors que tout le monde était fatigué à un moment donné, tout ça, lui, là, il dit, regarde, moi, c'est mon moment le plus facile de l'année. Il dit, mon entraînement d'été est bien plus difficile que ça.
Hey Guy, tu fais-tu une meilleure anecdote? Puis c'est pour ça que ça nous a tous conquis. Quand tu sais ça d'un joueur de hockey, là, tu te rappelles, il y a une coupe d'hiver. Je sais pas c'était quoi la pause. Je pense que c'était la semaine de break des Pingouins. Je ne sais pas si ça s'est venu à tes oreilles, sûrement, cette histoire-là. J'aime ça aller à Tremblant aussi. Puis je connais les patinoires parce que moi aussi, quand j'y vais, je fréquente les patinoires extérieures à Tremblant.
Oui,
il y en a une
oui.
sur le bord du lac, puis une en haut de la côte, pas loin de l'aréna, plus à l'abri. Crosby se présente là un matin, s'en va patiner là. Puis si ma mémoire est bonne, le petit gars qui était là, un jeune midget autour, un petit gars qui s'appelait Guillaume, il voit Crosby débarquer. Écoute, le gars est dans sa semaine de break. Il débarque sur une patinoire dehors à moins 15. Il met des bottines pour pratiquer des petites affaires de même. Écoute, à moins que c'était stagé avec le gars des vues là, pour faire parler de lui, puis je pense pas, là, ça avait l'air vraiment sincère et candide.
Non,
mais c'est ça. Je sais que c'était pas ça, mais je veux dire, une fois que tu sais ça du gars, Tu sais, comment tu veux pas. Comment tu veux pas. Comment dirais-je? Tu sais, c'est ma foi. Tu sais, waouh, c'est l'ultime histoire, là. Je sais pas s'il y en a bien, bien qui font. On disait ça de Chelios dans les rues de Montréal quand il était jeune. Mais je sais que Chelios.
C'est un engagement total, là. C'est un engagement total. C'est né, là, à 16 et 17 ans, là, tu sais, alors que tout le monde. Tu découvres, t'es jeune, tout le monde sort, tu sais, ça boue un peu, puis ci, puis ça. Mais lui, là. Jamais bu, jamais été d'un bar. Ces desserts-là, c'était des raisins entourés de yogourt. Jamais de coke, jamais ses affaires. Tu sais, c'était un engagement total. Il dit, gars, moi, je veux pas de blonde. Moi, je veux être le meilleur au monde. Puis chaque temps que je passe avec une fille, ben, ça me fait perdre du temps sur mon, sur ce que je veux. Et tu sais, c'est un engagement total. Je me rappelle les journées de congé, il y avait 16 ans. On essayait de se faire comprendre qu'il faut que tu prennes des journées de congé. T'as jamais joué autant de matchs que ça. Puis à un moment donné, c'était grave, là, il ne nous écoutait pas, là, il venait à l'aréna tout le temps, puis à un moment donné, on a dit, garde, c'est les journées de congé, il n'y a pas personne, l'aréna est fermée. Ben écoute, il avait caché ses patins, il était parti avec ses patins, puis il avait trouvé, il était où le gars, où vivait le gars de Zamboni, puis il avait des cognants à sa porte, demandé d'ouvrir la patinoire, puis il est allé patiner.
Ah, c'est tellement bon. Des histoires de même, pas, là, c'est du sirop d'érable, c'est les crêpes,
pour,
là.
Ben oui, puis c'est pas pour montrer aux gens, là, il n'y a personne qui savait ça, là. Il n'a pas fait ça pour le show, il n'a pas fait ça pour impressionner personne. On l'a su par le détour. Là. Fait que, tu sais, c'est pas des hasards. Là. C'est pas des hasards que ces gens-là, c'est des phénomènes. Tu sais, je me rappelle Stamkos. Il y avait un lancer phénoménal et la vitesse phénoménale à ce moment-là. Puis, tu sais, il était sur le même beat que Ovechkin à ce moment-là. Mais là, il a eu plusieurs blessures et ainsi de suite. Mais pour le nombre, tu sais, pour son lancer et son patin, après ça, moi, j'ai appris que toute sa vie, là, il allait à toutes les écoles d'apprendre à lancer puis toutes les écoles de patin. Là. Il n'en manquait pas une dans la région de Toronto. Fait que, tu sais, c'est ce dévouement-là, c'est cet engagement-là qui fait que ces individus sont des phénomènes. Tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est, ah, ben, ils sont nés talentueux. Oui, il y en a qui sont nés avec certaines propensions plus que d'autres, mais il y a des gens, moi, j'ai connu des gens plus talentueux que d'autres, que certains gars qui sont dans le national qui étaient considérés talentueux, mais ils n'avaient pas du tout cet engagement-là, ils n'avaient pas du tout cette fibre-là d'aller au-delà, puis de se dépasser, puis d'essayer d'acquérir des standards inatteignables. Alors, c'est vraiment une question de sacrifice et d'engagement et de nombre d'heures et de minutes qui sont à la base du succès de ces gens-là.
Hey, je pensais pas qu'on prendrait cette direction-là, mais écoute, c'est tellement des bonnes histoires, Guy, que je pouvais pas nous ramener au petit quotidien du Canadien, mais je vais quand même t'en lancer juste une et on conclura là-dessus. J'aimerais ça à t'écouter, tu sais, tu parles dans le fond des gens jamais satisfaits. J'aimerais ça qu'il y ait plus d'insatisfaits, puis je dis pas que les gars sont satisfaits chez le Canadien en ce moment, mais dans les points de presse, dans les clips, j'aimerais ça sentir plus d'insatisfaction et de désir de revirer ça que des gars un peu débinés, des gars un peu morts, des gars un peu éteints, ça m'énerve. Toi, qu'est-ce que t'as à dire, coach, là-dessus?
Ben, je suis d'accord, ça énerve tout le monde. Si on prend nos vies, là, prenez vos moments accablants de la vie, là, que ce soit un divorce, que ce soit une séparation quelconque, que ce soit la mort de quelqu'un, que ce soit peu importe, là, quelqu'un de malade ou une perte de quelque chose, tu sais, c'est un accablement. Puis dans un accablement, on est défait. On est détruit, on se reconnaît pas, on a de la misère émotionnellement, on a de la misère à gérer, on a de la misère à se raplomber, on a de la misère à trouver du support, on a de la misère. Ben, c'est ça, là. Ces gars-là, en ce moment, il n'y a pas personne qui veut pas performer, il n'y a pas personne qui
non.
veut pas travailler, il n'y a pas personne. Ça. Ils sont tous désemparés, ils sont tous déçus d'eux-mêmes, ils cherchent toute une solution. Puis pas juste ça, c'est qu'ils sont confrontés et c'est là que c'est difficile. C'est comme je viens de dire avec des gens qui ont des problèmes dans la vie, même des problèmes de santé mentale et ainsi de suite, c'est qu'à un moment donné, tu es confronté à tes limites. Et c'est là souvent que l'accablement devient très difficile à gérer. Parce que, un, de comprendre tes limites, de les rencontrer, de les atteindre, ça devient très difficile à accepter. Parce que tu fais face à ce qui est inadéquat dans ce que tu es capable de faire. Mais ça, c'est dur sur le moral, c'est dur sur l'orgueil, c'est dur sur l'estime de soi. Et c'est pour ça que dans des moments comme ça, en ce moment, on dit, bah, ils travaillent pas, ils font pas ci, ils font pas ça. Et ça va bien au-delà de ça. C'est que tu perds tes capacités. Puis il y en a qui vont dire la pression, ils vont dire, mais c'est l'accablement, c'est pire que la pression. parce que l'accablement te fait vraiment perdre tout ton enthousiasme, te fait perdre tes capacités, et non seulement ça, c'est contagieux pour ton entourage, puis c'est pas juste ce que tu dis, c'est même pas juste ce que tu fais, c'est ton langage non-verbal, 80% du langage est non-verbal, donc tout le monde dans cette chambre-là capte le non-verbal de tout le monde. Vous imaginez la contagion négative et accablante. Alors, c'est pas juste un accablement d'un individu, c'est bien pire que ça. C'est contagieux en termes de collectivité.
Et combien de temps tu peux laisser ça aller comme organisation, Guy, en terminant? Excuse, mais ça m'inspire celle-là. Combien de temps tu peux laisser ça aller si les résultats ne changent pas ou si tu ne sens pas une progression?
Tu veux jamais rien laisser aller, c'est clair, là. Mais si tu cherches toutes les solutions avant de faire quelque chose de drastique, c'est sûr, tu sais, il y a des choses à l'intérieur de l'équipe qui peuvent être faites, il y a des combinaisons qui n'ont pas été faites encore, il y a des joueurs qui ne sont pas revenus, il y a des interventions qui n'ont pas été faites, c'est sûr encore, là, tu sais, il y a des... Par contre, quand tu es limité, tu sais, on ne veut pas l'entendre, le Canadien n'est pas limité par son personnel en ce moment. Il est extrêmement limité, mais personne ne veut l'entendre. Il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas de club. Ils n'ont pas de club présentement. Puis même les joueurs qui habituellement performeraient, ben ils ont pas la capacité d'aller au-delà parce qu'ils ne sont pas non plus entourés par assez de joueurs qui sont aptes à gérer ça. Fait que t'auras beau amener Scottie Bowman, puis t'auras beau amener un autre gars, là, moi, les gars, ça change rien. Hey, ça change quand, puis ça, c'est prouvé dans la Ligue nationale, puis pas juste nationale, tous les sports, quand on met les entraîneurs dehors, on pense que ça a un impact énorme, puis que, parce qu'on se rappelle juste des petits pourcentages de réussite. La grande majorité du temps, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. C'est les mêmes résultats. Puis des fois, ben, je pense que c'est un 15% qu'il y a une amélioration, puis je pense que c'est un 15% que c'est pire, puis donc il te reste 70% du temps que tu fais des changements, ça ne change absolument rien. La raison est très simple, c'est que quand tu n'as pas l'équipe, tu auras beau mettre n'importe qui à la tête de ça, tu n'auras pas mieux. Tu n'as pas les chevaux. Alors le Canadien, tant que les joueurs ne reviennent pas, ne peuvent pas aspirer à mieux. C'est aussi simple que ça.
Écoute, il n'y a rien à ajouter là-dessus. c'est ça qui est ça, mon Guy. Un gros merci. Ben écoute, c'est pas parce que j'ai pas envie de continuer, mais là, l'horloge me rattrape. Merci. Merci, Guy. C'était excellent. Et puis, une excellente fin de soirée. On s'en reparle la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Puis là, c'est le week-end de l'Action de grâce, tellement déterminant. Je vais te dire une affaire. Quand on va se retrouver en début de semaine prochaine, là, en tout cas, si on ne sait pas déjà à quoi s'en tenir, on va le savoir encore plus.
Ben merci. Ben bonne soirée, tout le monde.
Bye-bye, Guy. Merci. Ciao.